Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous présenter, de vous proposer les rendez-vous du droit. Les rendez-vous du droit, qui est une émission proposée par l'école de droit de la Sorbonne, de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors, vous avez de la chance, peut-être pas de suivre cette émission, mais en tout cas d'avoir intégré l'école de droit de la Sorbonne et cette école qui se situe à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pourquoi? Bien parce que l'école de droit de la Sorbonne, on est un peu vantard ici, mais malgré tout, c'est celle qui est la plus demandée par les étudiants sur Parcoursup. Vous étiez 16 000 au départ, vous êtes 600 à l'arrivée. Soyez les bienvenus et soyez portés par cette première place qui est la nôtre. Et de surcroît, l'école de droit de la Sorbonne, on est encore plus vantard qu'on pouvait l'imaginer, appartient à une université qui figure parmi, enfin, qui est la première université française dans les classements internationaux, en tout cas dans l'un d'entre eux, parce qu'il y en a toujours plein, évidemment, mais là, on a pris celui qui nous arrangeait. Et enfin, cette université, elle est formidable parce qu'elle a ce qui existe assez peu ailleurs, elle a un studio d'enregistrement dans lequel nous pouvons faire des émissions comme celle-ci, des émissions pour accompagner et renforcer la transmission du savoir, c'est notre rôle. Alors, je ne suis évidemment pas tout seul pour construire et vous proposer ce programme. Et là, je suis accompagné de Marie Cariou, de Paul Éclair. Et vous êtes doctorant, ça veut dire quoi, ça, Marie?
Alors, moi je suis doctorante, ça veut dire que j'ai décidé, à l'issue de mes 5 années d'études de droit, de me lancer dans un projet de thèse pour, in fine, devenir enseignant-chercheur.
Alors, une thèse, c'est un livre hein, sur un sujet très précis qui va faire quoi, 400, 500 pages.
400, 500 pages, c'est le projet.
Ah, oui, c'est pas des.
Vous
faites la même chose, vous avez une petite particularité par rapport à Marie.
Alors, on fait la même chose parce que je suis également doctorant. On fait tous les deux une thèse en droit. Alors, ça n'est jamais sur le même sujet parce que tous les doctorants travaillent sur des sujets qui sont très divers et parfois très précis d'ailleurs. Donc, on ne fait jamais la même chose. Et puis, on a une petite particularité, c'est qu'on n'appartient pas non plus à la même faculté du droit, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Toujours est-il que bon, le doctorant, c'est celui qui fait sa thèse. C'est aussi celui pour l'étudiant qui va donner ce qu'on appelle les travaux dirigés.
Oui, alors ça, c'est important. La première information, c'est que là, on est. Il y a des enseignants, mais on n'est pas tous au même niveau, on va dire, dans notre avancement. Mais vous avez un enseignement en cours magistral. Et je vous le donnerai, et en cours, vous ne pourrez pas me zapper. Et vous avez un enseignement en travaux dirigés. Et au cours de ces travaux dirigés, on met en œuvre ce qu'on a appris pendant le cours. Et les enseignants en travaux dirigés sont la plupart des doctorants. Nous avons aussi quelques avocats. Alors, je précise qu'ils ont été très modestes tous les deux, parce qu'ils ont dit on a fait 5 ans d'études, puis après on a décidé de faire une thèse, d'écrire. Bon, ils ont fait 5 ans d'études, mais c'était les plus brillants, hein, faut le savoir, et que le choix de l'enseignement est fait par ceux qui n'avaient pas 12, qui n'avaient pas 14, mais qui étaient plutôt autour de 16 de moyenne. Ceci pour vous dire que nous sommes présents devant vous par vocation, par envie, et pour vous transmettre la passion que nous avons du droit. Voilà. Alors, on a parlé d'études supérieures. Eh bien, justement, qu'est-ce que c'est que les études supérieures que vous allez entreprendre? Alors, ce mot études supérieures, il est un peu. On comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que les études supérieures sont les études après le bac. Mais je crois qu'il n'y a qu'en France que ces études post-bac, on les appelle supérieures. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu curieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie?
Effectivement, ça peut paraître un peu surprenant dit comme ça, des études supérieures, mais en fait, on les appelle supérieures parce qu'elles ont lieu après le bac et qu'il fallait bien trouver un terme qui exprime cette idée. Et en plus de ça, c'est des études qui doivent nous permettre de développer une compétence experte et une compétence critique de notre discipline. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter.
Paul, oui, c'est critique, ça. Le mot critique, tout le monde est critique. Alors, est-ce que c'est critique pour critiquer? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot critique qu'on utilise tout le temps, parfois à tort et peut-être à travers, en tout cas?
C'est l'idée d'être capable de décortiquer les situations auxquelles on fait face pour être capable de prendre des décisions. Je crois que la clé de ce que permettent les études supérieures, c'est de prendre des décisions, parce que la plupart des métiers du droit, on en parlera plus tard, c'est des métiers de décision.
Prendre une décision, c'est autre chose que réciter sa leçon. Prendre une décision, ça veut dire que
dans le champ d'expertise qui sera le vôtre, qui sera l'expertise juridique, il y aura toujours plusieurs options. Il y aura toujours le choix entre plusieurs possibilités. Et pour faire le bon choix, ça suppose une maîtrise. Ça suppose une maîtrise du savoir, et donc ça suppose autre chose que, précisément, avoir appris par cœur un certain nombre de règles qui s'accumulent les unes aux autres. Ce qui veut dire que, dès la première année de droit, il faut prendre le réflexe à la fois d'apprendre, parce qu'il y a une grammaire à maîtriser, ça suppose, oui, il y a un petit effort de mémoire, oui, il y a un effort d'apprentissage, mais ça suppose qu'en même temps que cet effort d'apprentissage, on apprenne tout de suite à remettre en question ce qu'on apprend, et être capable de le travailler, et de voir qu'il y a des marges d'appréciation, il y a des zones d'incertitude, et précisément, maîtriser le savoir juridique, c'est être capable d'aller dans ces zones d'incertitude et d'en ressortir avec des solutions à peu près viables, ou en tout cas efficaces, pour ceux qui solliciteront vos conseils. Voilà ce que sont et à quoi servent des études dites supérieures. Alors, les études supérieures de droit se déroulent à l'université, et les études à l'université ont aussi leur particularisme.
Les études à l'université. Le droit en France s'apprend à l'université. Alors, en terminale, on vous a expliqué qu'il y avait deux manières de poursuivre ses études après le baccalauréat. Soit intégrer une classe préparatoire aux écoles, certaines grandes, soit intégrer l'université, faculté de médecine, la faculté de droit ou d'autres encore. Alors, donc les études de droit sont des études qui se déroulent à l'université. Attention, les études universitaires n'ont pas grand-chose à voir dans leur conception avec les études lycéennes et les études qui peuvent se dérouler en classe préparatoire. Et je crois qu'il y a un certain nombre de bons conseils à vous donner. Et je pense que, Marie-Paul, vous êtes encore tout près de cette première année d'études. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en premier à nos amis ?
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est apprenez à vous connaître. Parce qu'à l'université, vous allez avoir personne derrière vous qui va devoir vous dire ce que vous devez faire. Donc vous devez apprendre à être votre propre maître d'une certaine manière. Ça veut dire apprendre à connaître votre sommeil, apprendre à connaître vos besoins sociaux, par exemple, et aussi apprendre à gérer votre emploi du temps, parce qu'il peut varier entre vous et certains de vos camarades. Donc vous devez vraiment acquérir une grande autonomie.
Oui, moi, allez-y, Paul, je sens que vous avez envie de
dire un truc. La raison pour ça, c'est qu'à l'université, vous êtes tout seul. Au lycée, vous êtes dans une classe, vous avez des camarades de classe, c'est toujours les mêmes, vous les suivez pendant 1, 2, 3 ans. À l'université, vous arrivez, vous êtes tout seul. Généralement, vos camarades de classe ne vous ont pas suivi, donc vous débarquez dans un environnement où vous ne connaissez personne ou très peu de gens. Et vous êtes en totale autonomie, donc vous allez devoir tout faire seul. Votre rythme de travail, ce que vous allez faire ou ne pas faire, la façon dont vous allez le faire, tout s'apprend seul. Alors il faut casser cette... Il faut essayer de casser cette solitude et en même temps...
Juste pour donner des grosses patates horaires, des idées d'un peu des volumes. Bon, une classe de lycée, c'est 30 ou 40 élèves. Un cours d'amphi, autrefois c'était 1000 étudiants, là vous allez être à peu près 500. Et un TD, vous allez vous retrouver à 30-40, mais il y a quoi? Il y a combien d'heures de TD par semaine?
Il y en a 4,5, 5 heures. Voilà.
Donc le temps où il y a un collectif, je dirais, à taille humaine, est un temps très court. Donc majoritairement, le temps de l'étudiant est un temps où il est seul dans la foule ou alors il est tout seul en bibliothèque. Donc ça, c'est un point. Alors, on va être plus concret quand même. Quel conseil vous donneriez à la sortie du cours? Voilà, je sors de moi, j'ai fini ma journée de cours magistraux, qu'est-ce que je fais?
Oui, alors déjà, pendant le cours, le premier conseil, prendre des notes. Je déconseillerais d'enregistrer le cours et de rentrer chez soi après, ce qui est un réflexe assez fréquent, de mettre les écouteurs et de faire de la dactylographie. C'est une perte de temps considérable parce que finalement, c'est comme reprendre le cours deux fois. On y assiste et puis après, on le réécoute. Donc un cours de 3 heures, on y passe 6 heures. Et ça marche bien en octobre, mais quand les TD arrivent, ça devient absolument ingérable sans mordre sur son sommeil. Donc première étape, c'est d'aller en cours. C'est essentiel et de prendre en note le cours de manière correcte, de sorte que quand on sort du cours, on a déjà ses notes. On peut les relire, ça peut aider, on n'est pas obligé de le faire. Lorsqu'on a fini le cours, eh bien, on va aller préparer ses TD, c'est-à-dire ces heures avec les chargés TD qui vont permettre d'approfondir.
Alors, il faut les préparer. Vous dites quand même un truc important, Paul, c'est qu'en sortant de cours, on se dit pas j'accumule des connaissances et puis trois jours avant l'examen je réviserai. Non, c'est qu'en sortant de cours, je reprends mes notes. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, le fait d'avoir pas écouté deux fois le cours, déjà une fois, c'est assez long. Donc il faut tout de suite capter, l'enregistrer en prenant des notes, après les reprendre un peu et apprendre par sédimentation. Bon, après, ça c'est le cours. Après, il y a effectivement, le cours est accompagné d'un travaux dirigé. Alors, le travaux dirigé, il y a des exercices pratiques à préparer. Est-ce qu'on prépare jusqu'à 3 heures du matin la veille du TD ?
Alors non, très mauvaise idée. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous dans ses études de droit de déborder un peu sur les horaires raisonnables, mais il ne faut pas du tout que ça devienne une habitude. Parce que les études de droit, c'est des études un peu marathon. Ce n'est pas du tout comme en classe préparatoire, où vous pouvez avoir 2 ans, 3 ans de classe préparatoire, puis un concours, et d'une certaine manière, vous êtes plus tranquille après. Les études de droit, ça va être progressif, c'est-à-dire que les années vont être de plus en plus intenses. Donc vous devez, dès la première année, apprendre à avoir un rythme de vie qui vous permette de tenir sur la durée. Ça, okay. C'est un véritable enjeu, à mon avis.
Oui, la gestion de rythme, c'est presque l'apprentissage essentiel de la première année. Sur le fond, vous allez découvrir évidemment des notions essentielles qu'il faut connaître. C'est un peu le socle pour être capable de raisonner. Mais l'élément principal, c'est surtout d'arriver à travailler en autonomie, à se caler un rythme de vie, un rythme de travail.
Pour travailler en autonomie, il y a aussi une règle, c'est de se donner un emploi du temps, sachant que le volume de cours, il est autour d'une vingtaine d'heures hein, par semaine. Je crois qu'on a à peu près... Et une semaine de travail d'un étudiant, c'est pas 35 heures, mais c'est pas 70 non plus. Donc on échangeait tout à l'heure et moi je disais 48 comme ça, c'est une espèce de bonne mesure, ça peut être un peu moins, un peu plus. Et se dire j'ai 6 matières par exemple par semestre, 2 essentielles, moi je trouve qu'une bonne, les 2 essentielles c'est à peu près 40-50% de mon temps. Et le reste du temps c'est les matières on va dire, où il n'y a pas de travaux dirigés, mais qu'on apprend par sédimentation, qu'on revoit assez régulièrement. Je pense que c'est un point important ça.
Oui, il faut pas laisser traîner, entre guillemets, les matières mineures, c'est-à-dire les matières pour lesquelles il n'y aura pas de TD, parce que, effectivement, quand on arrive en décembre et en janvier, toujours des très mauvaises périodes en plus pour être en examen, c'est un mauvais moment pour redécouvrir ce qu'on a entendu en septembre ou en octobre. Donc, relire de temps en temps, se remettre un peu dans l'idée, peut-être aller lire un point ou deux dans un manuel. Alors il ne faut pas évidemment parcourir tous les manuels de toutes les matières, ce serait une perte de temps.
Oui. Mais... ça justement, les manuels, quel conseil vous donneriez, Marie ? Il n'y a peut-être pas qu'une solution, hein, mais je pense que c'est bien qu'on donne tous notre avis. Est-ce qu'il faut un manuel en plus du cours ? Voilà, question toute bête.
Alors je pense vraiment que chacun doit apprendre à utiliser un manuel comme bon lui semble, d'une certaine manière. Il n'y a vraiment pas de solution miracle. Moi, en tant qu'étudiante, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Parce que parfois, on peut avoir un enseignant qui est bon, et à Paris 1, vous aurez presque que des bons enseignants. Mais pour autant, la manière qu'il va avoir d'expliquer, ça va être la sienne propre. Et découvrir une matière sous un autre prisme, sous un autre regard, bah parfois vous allez avoir des déclics que vous auriez jamais eu en vous contentant d'une seule manière d'expliquer. Donc utiliser un manuel, ça a un deuxième gros avantage, c'est que ça vous permet de ne pas être trop stressé pendant votre prise de notes. C'est-à-dire que vous allez écouter le professeur qui vous fait cours, ou le maître de conférence, et derrière, vous allez savoir que votre révision ne dépend pas exclusivement de cette prise de notes-là.
Petit manuel ou gros bouquin ? Parce que, vous allez voir que vous suivez un cours d'introduction au droit. Vous allez vous promener rue Soufflot, vous irez sur un site internet que je n'aimerais pas, et on va vous proposer pléthore de livres qui s'appellent Introduction au droit ou Introduction au droit privé, donc dont l'intitulé correspond à l'intitulé du cours. Il y en a qui sont tout petits, qui vont faire 250 pages, puis il y en a des très gros, je pense que le plus gros, il doit dépasser les 1000. Vous conseilleriez quoi ?
Je pense que alors. En première année, on va bannir les manuels de 1000 pages, ce qu'on appelle généralement les traités. À part se perdre, ils n'ont pas vraiment l'intérêt pour les étudiants de première, deuxième année. Ils ont vraiment un intérêt pour quand on cherche à approfondir la matière. Les manuels, disons, un peu épais, 300, 400, 500 pages, ils sont très bien pour les matières majeures, celles pour lesquelles vous allez devoir préparer des travaux dirigés et donc que vous allez vouloir approfondir. Ces manuels, ils sont bien.
Alors, oui, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il va falloir que vous fassiez votre chemin. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Paul a dit, parce que moi, j'ai toujours pour conseil de prendre un gros traité en plus du cours. Mais voilà, et je vais vous dire pourquoi. C'est que ce traité, vous allez l'utiliser soit pour éclaircir un point du cours qui est resté obscur, soit pour approfondir une question qu'on va voir en télé. Et je me suis aperçu par expérience que les questions qu'on a du mal à comprendre sont souvent des questions qui sont traitées un peu vite. On ne va pas assez au fond des choses. Et c'est souvent en prenant le gros bouquin qu'on finit par avoir l'explication complète qui permet de comprendre. Et donc moi, j'aurais tendance à dire, soit vous prenez vraiment le manuel comme un cours plus, et là, il faut viser un manuel de taille moyenne, soit vous prenez l'ouvrage comme quelque chose qui va vous permettre d'approfondir, mais y compris les questions que vous avez envie, et là, putain, gros, donc...
Oui, il faut peut-être se connaître aussi, il faut peut-être connaître le besoin qu'on veut tirer du manuel. Si on n'a pas du tout compris ce qui a été raconté en cours, la navigation à traiter, elle va être compliquée. Il faut peut-être commencer par un manuel. Si on a besoin d'approfondir une question, là, évidemment, un manuel un peu plus épais, un manuel un peu plus conséquent, il va devenir intéressant, presque nécessaire peut-être.
Vous, c'est quoi votre position
Alors, moi, j'ai tendance à croire qu'il faut tout consulter. Parce qu'en fait, sur la longueur d'un semestre, on ne va pas avoir les mêmes besoins à chaque moment où on doit consulter un manuel. Et parfois, on va avoir un manuel préféré pour un problème donné, parce qu'on trouve qu'il y a un professeur qui a écrit ce manuel qui est particulièrement clair. Parfois, on va aimer pour approfondir un autre manuel, voire un traité, parce qu'on va avoir un professeur qui va aller plus loin, qui va plus nous stimuler sur le plan intellectuel. Mais ça ne correspond pas du tout au même niveau de l'apprentissage. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller en bibliothèque et en consulter plusieurs.
Et ça, c'est de l'autonomie. Vous voyez que dans les choix que vous allez faire, dans la méthode de travail que vous allez suivre, eh bien, il y a une part de choix qui va être la vôtre. Est-ce que je vais plutôt aller prendre du petit manuel, du gros manuel, du traité? Vous voyez bien que tous les trois, on vous a dit des choses qui sont un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Et c'est à vous de trouver, à chaque problème, la bonne solution. Donc voilà, ça, c'est de l'autonomie. Petite précision quand même. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de camarades qui ont une émission qui accompagne un cours. Donc, on a mis un petit élément nouveau cette année. Dans les éléments de transmission du savoir, il y aura le cours magistral, il y aura les travaux dirigés. Et je pense que vous verrez qu'on va les faire sur un mode un petit peu différent. Peut-être un mot quand même sur qu'est-ce qu'on a dit sur les travaux dirigés pour cette année.
Ah oui, sur les travaux dirigés que vous allez suivre cette année en introduction au droit, une particularité, vous allez devoir parler. Et parler d'expérience, c'est facile pour personne, même pour ceux qui ont un peu plus ça dans leur tempérament. Et pour les franchement timides, c'est franchement difficile. On le sait tous, et ça ne doit pas vous empêcher derrière d'accéder au métier du droit. Et c'est pour ça que dès la L1, dès la première année de licence, vous devez vous entraîner un maximum en TD. C'est le lieu pour apprendre l'oralité, voire l'éloquence.
Mais oui.
Oui, il ne faut pas se freiner dès le début. C'est s'handicaper que de se freiner dès le début à parler, parce que vous aurez, c'est pas se rendre service, vous aurez besoin, à un moment dans vos études, et dans tous les cas après vos études, de parler. Et en droit, généralement, il faut parler correctement, voire bien parler. Donc ne pas prendre la parole dans ses premiers TD, dès ses premières années, c'est finalement se tirer une balle dans le pied, c'est ne pas saisir l'opportunité qui vous est donnée. Vous devrez vous présenter devant des jurys, vous devrez vous exprimer devant des salles, même si vous n'êtes pas prof. Il faut prendre le pli dès le début, parce que sinon ça devient très gênant dans les années futures.
Voilà, c'est une parfaite transition, parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tous les métiers du droit sont des métiers qui passent par l'oralité. Et donc... le temps est venu de vous dire quelques mots des métiers auxquels les études de droit peuvent vous conduire. Les métiers du droit. Je crois que quand même la première chose à dire, c'est un mot d'un humoriste pas très drôle, ça marche une fois, mais on peut faire une année de droit et les autres de travers. Autrement dit, ce qu'on voudrait quand même vous dire, c'est que vous êtes peut-être en première année de droit, vous allez peut-être faire 3 ans de droit, vous allez peut-être faire tout autre chose.
Hein ? Oui, les études de droit ne mènent pas nécessairement à un métier du droit. Je pense que c'est le premier élément, il y a beaucoup de passerelles. Le droit, c'est une matière... un peu central, un peu passe-partout, qui apprend une certaine rigueur méthodologique, une certaine rigueur de travail, et qui donc est très pratique quand on veut faire autre chose, ou si l'on a envie, après quelques années, parce que ça peut arriver, de faire autre chose.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
À part du droit dans la vie ?
Non, mais quand on a fait 3 ans de droit.
Alors, quand on a fait 3 ans de droit, on peut envisager un tas d'autres choses. Moi, j'ai des camarades de promotion, de licence, qui sont plutôt allés vers... les ressources humaines, vers Sciences Po, qui sont allés faire du journalisme. Donc les portes sont vraiment ouvertes pour faire d'autres choses. Voilà. Nous, on est restés et on espère que ça sera aussi votre cas quand même.
Voilà. A priori, vous ne serez pas ingénieur ou médecin, parce que là, il faudra tout reprendre à zéro. Mais voilà, en dehors de ces des disciplines, je veux dire, on va dire des sciences dures, 3 ans de droit vous permettent d'aller ailleurs. Maintenant, si vous restez chez nous, on est quand même là pour vous intéresser. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Alors, il y a des gros bataillons. Hein. Il y a les, alors, le premier bataillon, c'est peut-être celui que vous connaissez le moins. A priori, c'est le juriste d'entreprise. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, Paul, du juriste d'entreprise?
Oui, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés, vous avez nécessairement un service juridique qui doit gérer tout. Chaque activité génère des questions, des problèmes de droit, et donc bah, il faut des juristes, un petit bataillon, c'est le service juridique, et il y en a dans chaque entreprise. C'est probablement, en termes numériques, effectivement le gros de l'entreprise. Alors, le travail peut être très varié, ça peut être de la propriété intellectuelle, ça peut être des contrats. Les ressources humaines aussi, c'est une très grande part de droit, donc il y a énormément de variétés différentes, et effectivement, il y a un très gros travail au sein de l'entreprise.
Oui, vous voulez... moi, j'insiste là-dessus, parce que autrefois, c'était... autrefois, je dirais, il y a une trentaine d'années, c'était un métier qu'on voyait avec un peu de... qu'on prenait un peu de haut, vous voyez, avec un petit complexe de supériorité. Ça a complètement changé. Hein. Les carrières de juristes d'entreprise sont des belles carrières. Les services juridiques de grandes entreprises, c'est plusieurs milliers de personnes. Diriger le département d'un service juridique, c'est déjà quelque chose d'important. Et on est associé aux grandes décisions d'entreprise. Donc ça, c'est... Et on peut faire carrière.
Oui. On peut ajouter que les juristes, ils ne sont pas que dans les entreprises, ils sont aussi dans les administrations. Et que c'est un travail un peu différent, mais que vous retrouvez les mêmes services juridiques avec les mêmes opportunités de carrière dans des communes, dans les départements, dans les régions, hôpitaux. Au niveau de l'État, dans les hôpitaux.
Il y a des juristes partout. Donc, on arrive maintenant peut-être au métier qui est sans doute le plus emblématique, enfin peut-être les deux métiers les plus emblématiques du droit, qui sont le métier d'avocat et le métier de magistrat. Alors, au fond, vous savez un peu ce que c'est, un avocat. Alors, vous savez ce que c'est sans savoir ce que c'est. Bon, l'avocat, c'est celui qui prend la parole pour autrui, ça c'est l'étymologie. L'avocat, c'est celui qui plaide les dossiers quand il y a un procès, on va dire. Pour l'instant, oui, on utilise des termes extrêmement larges. Et l'avocat, c'est aussi de plus en plus un conseil. Donc c'est celui qui va assister les entreprises dans la conclusion de grands contrats, et qui généralement va être présent du début jusqu'à la fin pour que, faire en sorte que les clauses du contrat soient exactement conformes à ce que les parties ont voulu, etc. Bon. Donc, avocat, métier de plaideur, mais métier de conseil aussi. Et ça représente les avocats, je peux dire une bêtise. Alors, à Paris, on approche on a passé la barre des 26 000, sauf erreur, on approche les 30, et sur la France entière, il faut multiplier par 2. Ça fait quand même du monde, mais pas tant que ça comparé à l'ensemble des étudiants en droit, enfin à l'ensemble des avocats qui arrivent chaque année au barreau, dans les différents barreaux de Paris et de province. Magistrat, ça vous tenterait?
Non, personnellement, c'est pas nécessairement le métier le plus attractif pour moi, mais c'est un métier qui est attractif, même si c'est pas le métier le plus simple.
Et pourquoi il est pas attractif pour vous?
Je sais pas. C'est une bonne question.
Bon, alors, tu as une vocation, pourquoi,
oui. Oui, probablement une vocation. Oui, mais alors une vocation du service public, le magistrat doit l'avoir nécessairement.
Également.
C'est un métier qui attire beaucoup quand on commence, mais dont beaucoup se détournent. Alors, soit parce que c'est un métier qui est très technique, très complexe et très difficile d'accès, et qu'on se dit que ça ne vaut pas forcément l'investissement personnel, ou alors parce qu'on découvre, et c'est souvent le plus souvent, c'est ce cas de figure, on découvre autre chose qu'on préfère, dont on se dit qu'on a plus une vocation. Pour moi, c'est l'enseignement, donc je préfère faire de l'enseignement que de la magistrature.
Bon, après, nos états d'âme, c'est très intéressant, mais là, je vous ai posé la question, mais qu'est-ce que ça fait quoi, un magistrat?
Un magistrat, ça tranche des conflits de toutes sortes. On va développer un peu plus tard, dans cette émission, quel type de conflit on peut avoir à trancher en droit, mais il y a plein de rôles dans la magistrature. Moi, ce n'est pas non plus un corps de métier que je connais très bien, même si j'ai de nombreux camarades de promotion qui sont allés vers la magistrature après un bac plus 5, après un master 2, et en passant un concours.
Alors, très bien, je rebondis. Pour être avocat, c'est Alors, théoriquement, 4 ans suffisent, et ensuite on passe soit l'examen pour être avocat, soit le concours pour être magistrat. En réalité, c'est 5 ans. Donc c'est Master 2 et un bon Master 2, il faut le dire. Hein. C'est le, voilà. Et pour accéder à la profession d'avocat, c'est un bon étudiant avec un bon Master 2 qui prépare l'examen, qui a des chances de réussir. L'ENM, c'est un concours. Alors ça dépend, il y a des années où on est plutôt dans des années où il y a pas mal de places, il y a des années où il y a moins de places, mais ça reste un concours assez difficile qu'on présente au bout de 5 ans et généralement, il faut rajouter une 6e année de préparation. Mm-hmm.
L'ENM, juste pour préciser, l'École nationale de la magistrature, hein, c'est l'école que vous devez rejoindre, il n'y en a qu'une en France, elle est à Bordeaux, pour devenir magistrat.
Voilà, oui, ça, effectivement, on utilise beaucoup de sigles en droit, mais comme partout, donc là on fait en sorte, on se surveille les uns les autres et qu'on utilise un sigle pour tout de suite vous livrer sa signification.
Peut-être qu'on peut préciser que la magistrature c'est une grande famille en fait.
Oui.
On pense évidemment quand on dit magistrat au juge, c'est-à-dire la personne ou au juge, pluriel ou singulier, les personnes qui sont là au milieu du tribunal et qui sont chargées de juger les affaires, mais les magistrats, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des juges un peu particuliers, il y a les juges d'instruction, les juges d'application des peines, tout ça sont aussi des magistrats qui ne sont pas forcément au procès. Et il y a aussi ce qu'on appelle le parquet, c'est-à-dire les procureurs, etc.
Là, c'est compliqué. Voilà. Mais vous avez raison de dire, voilà, retenez que c'est...
C'est une grande famille, il y a beaucoup de métiers.
La porte d'entrée est unique. La formation est unique. Après, les métiers de la magistrature sont effectivement extrêmement divers.
Ça, c'est, tout à fait.
Voilà, entre le juge des enfants, le juge qui suit les détenus, donc le juge d'application des peines, le juge civil qui tranche un litige entre deux voisins ou deux sociétés, sont des choses très grandes. Il y a quand même d'autres métiers, vous voulez en dire un mot, qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont tout aussi importants.
Il y a les métiers qu'on connaît assez bien, même si ce n'est pas des grands contingents. Les huissiers, les notaires sont des juristes également.
Oui, alors qu'est-ce que fait un notaire ?
Alors, un notaire va avoir tendance à organiser le patrimoine d'un individu et de sa famille, donc tout ce qui relève des successions, il me semble.
Voilà, donc le notaire, oui, c'est celui. Et puis les ventes immobilières, mais surtout, bon, c'est quelque chose qui est relativement complexe à percevoir, probablement pour un débutant que vous êtes, et c'est normal. C'est un métier qui est extrêmement utile, mais le notaire est quelque part un représentant privé de l'État. C'est un peu curieux, et donc il est capable de faire des actes qui ont la même efficacité qu'un acte de l'administration, si on simplifie un peu. Et ce notaire est très très utile pour toutes les questions de patrimoine privé, donc au moment des... Au fond, les grandes affaires patrimoniales de la famille, donc c'est mariage, succession et généralement l'acquisition immobilière, qui sont les trois grands temps, si vous voulez, de la vie patrimoniale d'un individu. Bon, je suis un peu connu, mais c'est pas évident de transmettre ce que sont ces métiers et qui existent aussi. Bon, voilà. Je crois que vous avez quand même déjà une bonne idée. Et je pense que ce qu'il faut bien retenir, hein, voilà, c'est que le métier auquel vous pensez en premier quand vous entrez dans les études de droit, et pas forcément le métier essentiellement, ou peut-être les métiers d'avocat et de magistrat, ne sont pas forcément ceux qui fournissent les plus grands bataillons de professions issues, hein, et ouvertes à l'issue d'études de droit.
On pourrait même dire que le métier auquel vous pensez en entrant à l'université ou le métier que vous espéreriez faire par le biais de vos études de droit n'est probablement pas le métier que vous ferez, ou l'un des métiers, parce que les carrières elles peuvent être multiples également, que vous ferez à l'issue de vos études de droit.
Tout à fait. Moi, si je peux donner une expérience personnelle, quand j'étais dans mon amphi d'introduction au droit en première année de licence, le professeur nous a demandé qui voulait être commissaire de police dans l'amphithéâtre. Et il y a une centaine d'étudiants qui ont levé la main et nous a expliqué qu'en France, il n'y avait peut-être même pas tant que ça de commissaire de police. Et c'était assez intéressant comme moment de se dire qu'en fait, on allait découvrir plein de choses et évoluer dans nos ambitions professionnelles.
Oui, les métiers de la police, c'est évidemment pas le plus gros débouché, mais c'est aussi un débouché des études de droit. Bon, après, il vaut mieux faire plus de droit pénal, mais ça, on y... Alors, vous avez observé quelque chose, c'est que depuis le début de l'émission, on n'est pas toujours très à l'aise, parce que très vite, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, on se sent obligé d'utiliser des termes techniques, et on sait très bien que ces termes techniques sont pour vous encore assez inconnus. Et donc, on essaye de dire en langage courant des choses qui, normalement, sont dites de manière technique. Et alors, on est toujours un peu à l'aise, est-ce que ce qu'on dit est tout à fait exact, etc. Alors, le moment est venu d'évoquer avec vous deux, trois mots de B.A.B.A., des institutions juridiques et des termes juridiques. Le béaba. Le béaba parce que on s'est un peu concertés tous les trois et on s'est dit le contact que vous avez avec le droit, c'est le contact qui passe par les médias, ça peut être la fiction, le cinéma, qui peut d'ailleurs parfois donner une image assez fidèle de ce que peut être une grosse audience. Et ce sont aussi les médias informatifs, où on voit l'avocat à la sortie de la salle d'audience dans une affaire un peu médiatique avec une forêt de micros qui vous dit « il n'y a pas d'affaire », etc. Et qui commence à plaider son dossier devant la caméra. Alors, et vous dites, et généralement on voit ces mots aussi, on dit le magistrat, on l'appelle votre honneur, on attend le verdict. Alors, tout ça, ça existe dans les films, ça existe dans les médias, mais ça n'existe pas en droit. En droit, vous voyez déjà, il n'y a pas de verdict et il n'y a pas de votre honneur. Donc, comment on dit un verdict en droit ? Comment vous le diriez ? Vous l'expliqueriez
à nos étudiants ? Il y a différents termes de vocabulaire, mais pour être le plus simple possible, on peut dire que chaque litige a une solution.
Ah, déjà, le mot litige, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un litige ?
C'est un conflit entre plusieurs personnes, voire entre l'État et des personnes.
Mais voilà, j'embête Marie, mais c'est. Vous voyez, nous, un juriste. Vous avez un conflit avec votre voisin, vous dites il me casse les pieds, etc. Je vais porter plainte. Voilà. Mais nous, le juriste va dire si ça se passe devant, vous voyez déjà la complexité, si ça se passe devant une juridiction civile, ça va s'appeler un litige. Donc la contestation entre les voisins va devenir pour le juriste un litige. Et le fait de dire le mot litige, ça va avoir un sens. Bon, vous allez découvrir ça plus tard. Mais vous voyez que déjà, déjà on était obligé d'introduire un vocabulaire spécifique. Voilà. Déjà, avant quand même le. Oui, alors, je vous laisse, je vous interromps, pardon. Reprenez.
J'aimerais faire une toute petite parenthèse. En fait, vous rendez compte sûrement en écoutant cette vidéo que quand on fait du droit et quand on apprend le droit, on apprend en fait presque une deuxième langue. Et il faut que vous ayez vraiment ça à l'esprit pour devenir un bon juriste et avant ça un bon étudiant en droit. Bien maîtriser le vocabulaire. Donc
si vous parlez en plus l'anglais, vous serez trilingue puisque vous avez parlé le français, le juridique et l'anglais. Voilà. Bon, ça c'est une bêtise.
Voir l'anglais juridique, donc quadrilingue.
Voilà, quadrilingue. Ouais. C'est-à-dire, oui. Alors, non, juste, oui, quand même, bon, laissons parler de verdict. Bon, en bon français, il y a une décision de justice. Voilà. Il y a une décision de justice rendue par le tribunal du premier niveau, la juridiction du premier niveau, c'est un jugement. Voilà. Et si on n'est pas content de son jugement, eh ben, on fait appel, et on fait appel devant une cour d'appel. Voilà. Même, on peut après, quand on raffine,
on interjette appel.
Voilà, interjeter appel. Et si on n'est pas encore content de ce que la cour d'appel a décidé, si on n'obtient pas gain de cause devant la cour d'appel, eh bien on porte son affaire devant une juridiction qui est d'un rang hiérarchiquement supérieur et qui, il n'y a pas que elle, mais la principale pour nous, en droit privé, on va y venir, est la cour de cassation, dont vous avez sans doute entendu déjà parler, dont on dit d'ailleurs parfois dans les médias qu'elle est juge de la forme et pas juge du fond, ce qui est faux. Expliquez-nous ça.
Oui, c'est faux. La cour de cassation, il n'y en a qu'une. Beaucoup de tribunaux de première instance, et les tribunaux de premier niveau, il y a un peu moins de cours d'appel, elles réunissent les cours de première instance. Il y a une seule cour de cassation, elle est à Paris, elle est sur l'île de la Cité, quai de l'Horloge. C'est pas un juge de la forme et non un juge du fond, c'est un juge du droit et pas un juge du fait. C'est une distinction qui peut paraître un peu obscure, mais elle est très concrète. C'est un juge qui ne va pas se poser la question de savoir si Madame Machin a effectivement fait la chose qu'on lui reproche ou si Monsieur X a effectivement fait la chose qu'on lui reproche. Elle va simplement se poser la question de savoir si le juge, les juges du fond, c'est-à-dire les juges de première instance ou les juges d'appel, ont correctement appliqué le droit dans l'affaire de Madame Machin ou de Monsieur.
Alors, on va prendre un exemple, quand même, et sur lequel on va peut-être suivre un petit moment. Voilà, vous avez suivi votre premier cours en amphithéâtre et vous êtes ravi. C'est l'hypothèse favorable. Alors on va imaginer que c'est. On va lui donner un prénom, donc Juliette, voilà, on a choisi au hasard, sort de l'amphithéâtre et à la sortie de l'amphi, alors je ne sais pas si ce sera à Lourcine ou encore au centre René Cassin, bon ça vous allez être informé en temps utile, et à la sortie, eh bien Hugo est sur une nouvelle mobilité, une petite trottinette électrique et vlan. Juliette qui était la tête en l'air, l'a pas vu arriver et le petit socle de la trottinette lui a flingué la cheville, passez-moi l'expression. Alors bon, comme ça, on dit oui, c'est une petite histoire parisienne, mais c'est pas drôle du tout parce qu'en réalité, la cheville est cassée, est immobilisée pendant 6 semaines, elle avait pris un job d'étudiant, donc elle pourra pas prendre son job d'étudiant, donc elle va avoir du mal à payer sa chambre. Et donc, ce qui est une aventure de la vie quotidienne,
dans quelque chose d'un peu compliqué. Alors, vous me direz, quel intérêt parler de Juliette et Hugo ? Imaginons que Juliette veuille être indemnisée par Hugo. Qu'est-ce qu'elle va faire ?
On peut imaginer tout d'abord qu'elle va essayer de consulter un avocat. Ça serait quand même le conseil qu'on va lui donner. Mais si Juliette a déjà suivi plusieurs cours de droit, elle peut savoir par elle-même qu'elle peut envisager de porter l'affaire devant un juge, qui va être la personne compétente pour trancher un litige.
Et donc le litige, ça va être, pour être, ensuite on commence à être plus précis, le litige, ça va être le fait de formaliser pour Juliette ce qui lui est arrivé, et ce qu'elle demande à Hugo. Et ce litige va être porté devant un tribunal. Et alors, aujourd'hui, on a réuni, c'est compliqué. Enfin, le tribunal de demain s'appellera dans cette affaire le tribunal judiciaire. Et c'est le tribunal de première instance, celui devant lequel on porte en premier lieu son affaire. Voilà. Et donc Juliette va demander, on va dire, des dommages et intérêts à Hugo pour que Hugo l'indemnise du préjudice qu'elle a subi. Oui, dans le préjudice, il y a le fait qu'il y a une perte. Il y a d'abord un préjudice physique, il y a une perte d'emploi, il y a possiblement une perte de logement. Vous voyez, on peut commencer à gonfler les montants en fonction des chefs de préjudice. Et bien déjà, avec une petite histoire, tous les mots qu'il a fallu introduire. On peut prendre des exemples un peu plus pointus. Oui, et je me disais. Une chose qui pourrait être, qui va apporter un facteur de complexité. Imaginons que notre ami Hugo se soit mis en infraction pour rouler avec sa trottinette sur le trottoir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque pour lui ? Est-ce que vous voyez, je pose cette hypothèse-là pour vous montrer que si on ajoute cet élément-là, eh bien, on va ajouter toujours dans le béaba, un élément de complexité à la situation. Si c'est une infraction, si c'est une contravention, si Hugo n'a pas respecté la règle, là, son risque peut être un risque pas forcément très élevé, mais un risque pénal. Et ce qui peut lui arriver, c'est d'être poursuivi devant ce qu'on va appeler des juridictions répressives, et ça peut être ici le tribunal correctionnel, etc. Vous voyez donc, ces mots, il faut assez vite les apprivoiser. Décision de justice, jugement, arrêt, recours, tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. Et on peut les apprendre comme ça en discutant, on va les apprendre plus sérieusement en cours, mais il faut très très vite vous familiariser avec tout cela, comme il faut également vous familiariser avec une distinction qui arrive très très vite dans vos études, qui est pourtant très complexe à décrypter de manière rigoureuse, et que pourtant vous devez assez vite apprivoiser, qui est la distinction du droit privé, Marie est doctorante en droit privé, et du droit public, Paul est doctorant en droit public. Donc parlons de la distinction du droit privé et du droit public. Alors, le droit est un ensemble relativement homogène. Enfin, c'est un tout, mais c'est un tout qui comporte deux parties, qui sont le droit privé d'un côté, le droit public de l'autre. Et ces deux entités forment un couple infernal, parce que finalement, ils sont indissociables, ils n'ont pas le droit de divorcer, et même ne peuvent même pas faire chambre à part. Donc, on est obligé de fonctionner avec les deux. Je dis ça un peu avec le sourire, parce que, on va le voir après, ceux qui font du droit privé et ceux qui font du droit public ne sont pas tout à fait les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes et les institutions ne sont pas les mêmes non plus. Alors, on va essayer de faire très simple, mais je vais quand même commencer, je voudrais quand même commencer par rappeler une donnée relativement élémentaire qui est quand une société comporte plus de centaines de milliers de personnes, elle a toujours un État qui la structure, et qui fait en sorte que la vie en société soit une vie à peu près pacifiée, une vie agréable. Au fond, si dans les rues de Paris, on peut se promener à peu près tranquillement, c'est malgré tout parce qu'il y a un État qui assure la sécurité et qui assure d'autres fonctions. Et donc on peut dire, si vous voulez, que le droit privé, c'est le droit de la société, et que le droit public, c'est plutôt le droit de l'État. Mais vous voyez que les deux,
même si ils sont côte à côte, les deux sont indissociables, même si l'objet des deux sont pas le même. Alors là, je suis très abstrait et je suis sûr que Marie, vous avez votre envie d'être un petit peu plus concret.
Oui, bah, je peux déjà commencer par vous donner un exemple de situation qui relèverait du droit privé, quitte à la complexifier un tout petit peu après. L'exemple type, c'est vraiment l'exemple de Juliette, qui plutôt que de se faire heurter par Hugo en trottinette électrique, elle allait à la boulangerie, elle arrive devant le boulanger, elle achète un croissant. Le fait d'acheter un croissant au boulanger, c'est une situation inter-individuelle qui va être régie par des règles de droit privé.
On peut dire une relation entre individus, hein,
oui.
On a tout de suite besoin de... Mais bon, je vous en prie.
Mais peut-être que Paul, qui est publiciste, qui est juriste de droit public, va nous donner un exemple propre à sa discipline.
Oui, en fait, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre deux types de personnes pour comprendre la distinction entre le droit public et le droit privé. C'est la distinction entre ce qu'on appelle les personnes privées et ce qui s'appelle les personnes publiques. Alors... on pourrait finalement définir l'un à l'inverse de l'autre. Si on prend les personnes publiques sont toutes les personnes qui sont rattachées à l'État d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être évidemment le gouvernement, le président, l'administration au sens large, mais ce sont aussi les collectivités territoriales. La commune, le département, la région sont aussi des services publics. Les hôpitaux, les universités, nous-mêmes, faisons partie d'un service public. L'université est une personne de droit public. Ça, ce sont les personnes de droit public. Elles sont soumises à un droit particulier, c'est le droit public. Et à l'inverse, finalement, toutes les personnes qui ne sont pas les personnes de droit public, ou plutôt, disons, les personnes normales, c'est un peu difficile à expliquer, mais on peut les diviser en deux, et on va le faire juste après, appartiennent au droit privé, vous et nous, les entreprises, et sont régies par les règles du droit privé. Alors, il y a peut-être une distinction à faire entre les personnes du droit privé les sujets du droit privé que je laisse.
Oui. Bon, ça fait un moment qu'on est, quand on dit les personnes, on tourne autour du pot. Je crois qu'en fait, il faut faire ça. Bon, Marie, vous prenez l'exemple de l'achat de la baguette, on a pris l'exemple de l'accident de trottinette. Alors, juste quand même, on va rester sur l'accident de trottinette une seconde, juste pour vous montrer qu'on passe quand même et on va revenir aux personnes après, désolé, mais l'accident de trottinette, imaginez que Hugo dise, mais en réalité, je ne suis pas rentré dans Juliette parce que j'étais pas fait attention, je suis rentré dans Juliette parce qu'il y avait un trou dans le trottoir, ce qui arrive relativement souvent dans Paris en ce moment. Donc, il est tombé, la petite roue s'est coincée dans le trou, il a fait une culbute, et voilà la raison de la chute. Et vous voyez que ça fait réagir le publiciste parce que le petit litige entre Juliette et Hugo prend une coloration publiciste, et vous allez me dire pourquoi, Paul.
Mais oui, parce que Juliette et Hugo sont des personnes privées. Donc, le contentieux qu'elles ont, le problème qu'elles ont, c'est un problème de droit privé. Mais lorsqu'on rajoute le trottoir, il appartient à la commune. La commune, c'est une personne de droit public. Et donc, ce problème, ça devient également, ça reste un problème de droit privé entre Juliette et Hugo, mais ça devient également un problème de droit public vis-à-vis de la commune Paris en l'espèce. Et ce problème de droit public, il n'est pas devant le même juge et il n'est pas en application des mêmes règles.
Ça va revenir dessus. Et bien justement, on va y rester puisqu'on est dedans. Tout à l'heure, on vous a parlé des différents métiers, du béaba du droit, et quand on vous a présenté les juridictions, c'est-à-dire les tribunaux, vous avez dit tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. On a joyeusement zappé une autre catégorie de juridictions, qui sont ces juridictions qui vont connaître de ces questions de droit public, donc les juridictions qui vont connaître l'histoire de Juliette et Hugo qui est tombée dans un trou. Et donc là, peut-être c'est pas mal que vous... ces juridictions, elles sont importantes, quelles sont-elles?
Ce sont les juridictions administratives. Alors, elles suivent la même logique que les juridictions privées qu'on a exposées tout à l'heure. Vous avez des juridictions de premier niveau, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux administratifs. Et puis, donc vous amenez vos affaires devant un tribunal administratif. Si vous n'êtes pas satisfait de la solution, vous allez devant une cour qui est à un niveau un peu plus élevé, la cour administrative d'appel. Donc, c'est la même chose que la cour d'appel, mais version administrative. Et puis, si vous n'êtes toujours pas satisfait, eh bien, vous faites la même chose qu'un recours en cassation, mais ça n'est pas devant la cour de cassation, c'est devant une autre institution, c'est le Conseil d'État, qui est également à Paris, juste à côté du Louvre, au Palais Royal. Et c'est un peu, pour comparer au droit privé, la cour de cassation du droit administratif. C'est la cour suprême du droit administratif.
Vous voyez comment, par l'effet d'une simple discussion, on finit par enrichir assez simplement ses connaissances. Mais tout ça, c'est important. Alors, on va rester quand même sur ces distinctions, parce qu'après, vous avez compris que nous sommes là, et alors, Paul d'ailleurs va nous quitter, après on verra moins, pour dispenser une introduction au droit privé. Mais et bien, le droit privé étant indissociable du droit public, il faut quand même déjà avoir une petite idée de ce qui est à l'intérieur. Et quand je vous disais tout à l'heure, ce couple droit privé et droit public est un couple infernal, c'est aussi que ce qui anime les deux matières qui la mettent en œuvre ne sont pas les mêmes personnes, je disais ça tout à l'heure. Et comment, justement, ne sont pas les mêmes personnes, comment on fait pour être membre de la juridiction administrative? Est-ce qu'on passe le concours de l'ENM pour École nationale de la magistrature, ou est-ce que ça se fait autrement?
Non, c'est un autre cursus qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément la même expérience. Pour intégrer le Conseil d'État, la voie de principe, c'est l'ENA, c'est l'École nationale de la magistrature. On connaît tous l'ENA, donc c'est par le biais de l'ENA qu'on intègre le Conseil d'État. Alors les règles sont un petit peu différentes pour les tribunaux administratifs, mais on peut peut-être éviter les détails. Oui. Le tout, c'est de savoir que la branche est différente, que ça n'est pas les mêmes métiers, que ça n'est pas non plus ce ne sont pas non plus les mêmes profils. Les gens qui intègrent l'ENM ne sont pas les mêmes que ceux qui intègrent l'ENA.
Voilà. Et donc, peut-être pour. Oui, donc, il y a effectivement une culture différente. Alors, simplement, c'est vrai que certains d'entre vous qui feront du droit public pour ensuite récupérer, poursuivre en public, passer les concours pour devenir membre de juridiction administrative, et s'ils souhaitent intégrer la plus haute d'entre elles, le Conseil d'État, se présenter ensuite à des préparations ENA qui existent, je crois, il y a une préparation
à Paris,
il y en a ailleurs, mais qui vont et qui ensuite vont retrouver des étudiants qui probablement sont issus d'IEP et qui, eux, n'auront peut-être jamais d'ailleurs mis les pieds dans une faculté de droit. Bon, c'était important. Alors. Je pense que c'est quand même encore important sur les... Maintenant, si on revient au droit privé, mais on a déjà un petit peu mieux vu ce qu'était le pourquoi du droit public et puis ce en quoi il consiste globalement. Parmi les personnes, le droit privé, donc le droit des personnes privées, on disait tout à l'heure, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas que Juliette et Hugo, il n'y a pas que ce qu'on appelle des personnes physiques, Marie, Paul et moi. Il y a aussi autre chose, comment on les appelle?
Tout à fait. Alors, en droit, et a fortiori en droit privé, ça existe aussi en droit public, on distingue les personnes privées, qui sont nous autres, c'est-à-dire toutes les personnes, tous les êtres humains faits de chair et d'os, et on distingue ces personnes-ci des personnes morales. Alors, les personnes morales, on appelle ça également des fictions juridiques, parce qu'en fait, elles ne consiste pas en une réalité vraiment tangible. La personne morale type, c'est la société. La société, elle a un certain nombre d'employés. La société commerciale, pas la société étatique. La société commerciale, elle va avoir un certain nombre d'employés, elle va aussi avoir des dirigeants, mais la société en elle-même est une personne qui dépasse la somme de tous les individus qui la composent.
Donc, si vous êtes mécontent de votre abonnement à tel ou tel outil moderne, vous allez faire un procès, non pas à celui qui, à la personne physique qui vous l'a vendu, mais à la société, dont cette personne physique est le salarié, et c'est cette société qu'on va considérer comme une personne, même si c'est une entité un peu abstraite. Voilà. Et donc, très très vite, oui.
Oui, elle n'a pas de physique, en fait, tout ça, c'est la grande distinction. La personne morale, elle n'est pas tangible, alors que les personnes physiques, on peut...
C'est une expression qu'on ne dîne pas avec une personne morale, même si c'est elle qui paye l'addition. Mais ça, c'est moins vrai maintenant.
Peut-être qu'on peut ajouter que, alors, il n'y a pas que les sociétés qui sont des personnes morales. Parmi celles qu'on connaît très bien, il y a des associations également qui sont des personnes morales de droit privé. Et puis, la commune, le département, le gouvernement sont des personnes morales aussi. Elles n'ont pas de, elles sont représentées
de
par
droit public.
De droit public, évidemment. Mais des personnes morales, les ONG également. Alors, les ONG, ce sont des associations. Tout ça, ce sont des personnes morales également, alors qu'ils appartiennent au droit privé ou au droit public, mais ce sont des personnes morales.
Voilà. Alors, maintenant, vous l'avez compris, l'introduction que vous allez entendre en cours, dont les enseignements vont être mis en œuvre en travaux dirigés qui comporteront une grosse part d'oralité, ces enseignements seront une introduction au droit privé. Alors, je vous le dis tout de suite et je vous donne ce faisant le programme des prochaines séances. Une introduction au droit privé est d'abord une introduction au droit tout court. Et donc, nous allons avoir des séances de travail où nous allons parler du droit en